Okay, I'm here.
Okay.
This is Biff.
Kiwi.
And the Rawad de Pampala Moose from Shalabi Effect. And you're listening to CKUT 90.3 FM.
Process of tearing their shelters down and pushing them away is devastating. It's psychologically traumatizing. It makes people fearful and angry, and it just lets them feel like they're worthless. It's treating them like they're just trash to be moved around.
We then move to BC, where Baker breaks bread to help civilians in Gaza and the occupied territories.
We need to embrace people who can help us feel humanity. And so it's more than just a little bit of money for a little bit of bread. It's about help me to connect to the heart of humanity. You know?
And to Nanaimo, where the late Greg Evans has been honored with the Medal of Good Citizenship for his work in food sustainability and security.
Greg was one of the unsung heroes in the community and contributed a great deal to the community over the years.
Welcome to Viewpoints, local news nationwide.
Follow us on X at CanadaLJI and listen to all our stories on frequencynews.ca.
Nice to have you with us again this week, and all our best wishes for 2024. We start things off out east in the Maritimes, where the Halifax Council is working to create more affordable housing. Councillors voted last December to sell land owned by the municipality to build more affordable housing units. During the council meeting, councillors also approved a motion to redesignate six plots of land from surplus to a new use as affordable housing projects. Haley DiRizio in Halifax, Nova Scotia.
Halifax Council has voted to move ahead with two projects that will create more affordable housing in the city. Council voted to create a plan to use the upcoming Cogswell District and sale of surplus land for affordable housing. Councillor Pam Lovelace said the Cogswell District will be an ideal spot for affordable housing.
We're headed to chat with the public, and I'm really excited about that. This is the best place. This is such an ideal place for affordable housing, for community development, right? Like, not just housing, but community space, and thinking differently about what a community is and how it connects to its neighboring communities.
Councillor Patty Cuddle said it's exciting to see affordable housing added to the project's plan.
I remember when we started this, affordable housing in the Cogswell District wasn't on the table, and now it is. And I think that that's so important that it's there. It's not there by accident. It was there by, as a result of the public consultation process that we had at the beginning of this process.
Staff will consult with Halifax residents and business owners to create a land use plan for the district. Councillors also voted to approve six parcels of land as surplus in order to be used for upcoming affordable housing projects. Councillor David Hensby asked that the proposed site on Chamberlain Drive be temporarily removed from the list.
For instance, the one there on Chamberlain Drive, talk about under the affordable housing category in Attachment C, I thought we had under our charter that the abutting property owners have first right of offer in regards to any surplus properties that we have. And I think that this kind of circumvents that requirement of the charter. I spoke to one of the neighbors who abuts this property and has expressed an interest in acquiring the property. Just want to know when it might be declared surplus. But according to this report, another neighbor down the road is making an inquiry of buying the so-called old road right-of-way and using it as a building lot. Therefore, the abutting neighbors have no opportunity to buy the property themselves. To split it between the two property owners or one property owner buying it all to enlarge his own property. So I want to know is how is this going to override the requirements of our charter where the abutting property owners are supposed to have right first of offer.
Councillor Sean Cleary said he would not vote to remove it from the list in order to allow neighboring properties to purchase.
It's a pretty dangerous road to start going down. That's like, when we have a rec center, for example, that is at the end of its useful life and we're building a new one. Then we're obligated to ask the neighbor, hey, do you want to buy this piece of property, which could be worth millions of dollars? Anyway, the solicitor's already pointed out that it's not a requirement. And when we set up the whole category of affordable housing, it was to look at opportunities so that we could, frankly, help with the housing crisis that we're in. unless an abutting property owner is willing to build an affordable house next door. That is counter to the whole point of setting up this new category in AO50 so that we could use this. So I'm not going to vote for taking it off the list because staff have already gone through, based on our direction. We told staff, go find properties that we could put forward as for affordable housing. And here they've come back and said, here's some properties, and now we're going to start taking them off and go, nah, we don't want that.
The property on Chamberlain Drive will be temporarily removed. However, the parkland site on Fox Hollow Drive in Upper Tantallon that Councillor Pam Lovelace asked to be removed was voted down.
I'm asking to remove 21 Fox Hollow Drive, which is the Fox Hollow Drive Park, from this list. It is a well-used piece of property that abuts the St. Margaret's Bay Rails to Trails, which is a trail that connects to the Rum Runners. It connects to BLT. It is a well-used trail. This is a park that was deeded to the former county and has been municipal and public land since the subdivision was created. And, you know, the community is, disappointed that the municipality would suggest that there's a place for, affordable housing on this parkland when it's outside the urban service boundary. It's not anywhere near public transit. This certainly would have to put in a septic system, well system, and so on and so forth. And then that would remove the public's ability to access the trail through this park. I'm just asking to have this removed, and I understand the importance, and residents understand the importance of finding land for affordable housing, but quite frankly, affordable housing and transit are hand in hand. It's extremely difficult to have affordable housing in a rural area without access to piped sewer, piped water, or transit. There's no amenities there for folks to easily get to. So I feel like this is, I want to thank staff for putting this forward, but this is not the right, this is not a good fit for affordable housing.
Staff will now work with local nonprofits to see which projects could be designated to each site.
You are listening to Viewpoints.
Well, the story is a bit different out west as the City of Edmonton and the Edmonton Police Service continue to dismantle unhoused community encampments identified as dangerous and unsafe. They have ordered the camps to be dismantled through a court order made by the Alberta courts on December 18. 8 camps have been identified and dismantled so far. As the court order was made, there were protests in the city streets as well as on social media. Edmontonians and human rights groups expressed their displeasure about the sweeps and the treatment of the people displaced. More on this with Ryan Hunt in Edmonton, Alberta.
The encampment sweeps continue on in Edmonton, and the community has been very vocal about how they feel about them. Edmontonians have taken to the streets as well as social media to display their disagreement with the sweeps. Jim Grenett, a spokesperson with the Edmonton Coalition on Housing and Homelessness, spoke about how much these sweeps have affected the unhoused community.
This process of tearing their shelters down and pushing them away is devastating. It's psychologically traumatizing. It makes people fearful and angry, and it just lets them feel like they're worthless. It's treating them like they're just trash to be moved around.
Grenett says it's very important to keep these conversations around the sweeps going.
I think it's vitally important for people to get the story of what we're doing to people who are homeless. And now, finally, with the attention that's being paid in these last few weeks, people are starting to speak up and say, this is not how we should be treating each other in our community. We can do better than this.
Grenett lists the ways to show support for the unhoused community if you wish to do so.
The single most important thing that we believe at the Edmonton Coalition is to contact, to write, or to meet with elected leaders and tell them that you know that we can do better and you want us to do better. But in practical terms beyond that, not coming out to witness what's going on, just being there so that the city and the police see that people are keeping an eye on them day by day, get out and support the organizations that are helping these people all the time, like Bissell Center, Boyle Street Community Services, Mustard Seed. These people have people out on the street looking after and providing assistance to homeless people all the time, and they always need things.
I'm Ryan Hunt.
Andrew Picton, Ontario, where the Hope Center on King Street has opened an overnight warming center, a first for Prince Edward County, which is located some 100 kilometers away from Kingston. Pastor David Inch and his wife Lori have been dreaming about this for more than 5 years, and finally the doors are open every night to anyone 18 and older in need of a warm place to stay. Although it's not a shelter, the welcoming atmosphere can provide individuals with a shower, food, and clothing. Details with Brenda Little.
The warming center has been a dream come true for Pastor David Inch and his wife Lori, who have worked tirelessly over the past 5 years to make this happen. When I walked in, it immediately felt welcoming and friendly. David and Lori were excited to show me around and talk about how this project came to fruition. Originally built as a Christian school, the building has evolved into a small, big-hearted church with a mission to help disadvantaged people to live a healthy lifestyle. For their dream to come true, though, extensive renovations were needed to bring the building up to code. With funding from the Prince Edward, Lennox, and Addington Social Services, and thanks to some help from community members and businesses, the doors are open. When asked about homelessness in the county, Inch said that there's a lot of couch surfing and a definite need, especially at night, for people to find a safe place to stay out of the cold. He explained that although not a shelter, people in need can come in where they can get a shower, some food and clothing, as well as sleeping bags, pillows, and blankets. The center is open every night to anyone 18 years of age and older, 8 p.m. to 6 a.m. from December 15th to March 15th. People are allowed to bring one bag with them. No pets, but service animals are welcome. Along with the warming center, the church provides community dinners, coffee drop-ins, and always friendly fellowship. The Inches have dreams of taking this project to the next level, but for the time being, their focus is on getting through the first winter at the Hope Warming Center. For the Local Journalism Initiative, I'm Brenda Little.
You're on the air with Viewpoints.
And now back to British Columbia, where the city of Smithers breaks bread to fundraise for bakers and civilians in Gaza. BC's Rustica Bakery sold dozens of Palestinian and Middle Eastern breads on New Year's weekend to fundraise for civilians and bakers. This as the war in Palestine rages on. Civilian casualties have topped 23,000, and there's no end in sight. The folks at the Restica Bakery near Smithers has connections around the world. Meg Roberts, owner and head baker at Restica, wants to do her share, saying there are civilians and children in the crossfire, and that needs to stop. Robert said the Rustica is embarking on a new initiative called Piecemeal Projects to help civilians in conflict zones. Peter Rebergen was also at the bakery. He spent months in Gaza in 1980 and experienced firsthand the challenging living conditions. When he heard Rustica was going to fundraise for civilians under siege in Gaza, he knew he had to help. Here he is with Dan Messick in Smithers, British Columbia. Please note that you will have to lend your best listening ears. There are many people chatting around them.
I'm Peter Rebergen. I'm from Smithers. I'm trying to make sense of what humanity is all about ever since I was a young person. So I wandered all over the place, in and out of universities. Formal studies weren't doing it for me. But when you start meeting real people in real situations, then things start to... you start to make some sense. So my life experiences keep getting broader and broader to the point where I can actually go, it's okay. That's why this picture means so much to me.
Yeah.
What the heck is a Canadian dude coming out of a white Christian background doing with a Muslim? But he puts his arm around me. That picture speaks volumes to me.
Yeah, indeed.
I still get emotional.
So why did you feel the need to do this today? So you guys have baked a lot of bread trying to raise money for farmers, and it sounds like, you know, what I've been hearing is kind of a scorched earth approach where they're salting agricultural land, they're raising, you know, fields to the ground. And so this is all in support of farmers in Palestine. So how does, you know, why did you feel you needed to do this?
Because I live in a very comfortable, safe environment, and these people don't. And how do you make that connection that makes anguish, right? It's, what can I do? I'm just a baker. What can I do? I'm just an old dude, man. It's like, okay, so these people are hungry. A little bit of money. She's got some baker connections in Lebanon and so forth. If we can help them when they're able to, maybe bread. It's bread. But bread is also a metaphor for me. It's bread of life. I mean, it's not just physical bread for physical needs. It's also, we're a starving people too, if you understand what I mean. We don't get this. We need to embrace people who can help us feel humanity. And so it's more than just a little bit of money for a little bit of bread. It's about, help me to connect to the heart of humanity. You know, that's what it's really all about. Otherwise, these wars will never cease. Never. If we don't start connecting. So put aside all those differences. And
my brother.
That's why I chose these pictures, because it's awesome. So, I mean, I traveled throughout. I went all over the place in my 6 months, but it was a real struggle for me because I felt, too, that the other side, so to speak, of this is our line, get out of here. And they justify that with all kinds of religious things and so forth. But how these people can say it's Allah's will. And I'm going, no, man, what kind of a God is that? But they're very accepting people. And it just blows me away. Like, we're always insisting on rights and everything like that. And these people are just, but they have something that we don't have. I mean, they got hell on earth right now. It's awful. But they have something that many of us don't have. And that is a sense of, well, you don't need the world's goods. You just need, can I say, love, which is doesn't mean much today, but.
You're listening to Viewpoints with Boris Sasang.
Continuing with this theme of the conflict in the Middle East, in Cobourg, Ontario, citizens from the Northumberland Palestinian Solidarity Group say they will continue to rally every Saturday in front of Cobourg's Victoria Hall. The group wants to show support for local Palestinian families. Journalist Jeff Gard in Cobourg, Ontario, met up with Alex Cahill as he shares why he thought it was important to organize the rallies.
We want to raise awareness locally with what's going on in Palestine. We are here because we want our local Palestinian residents to recognize that there are people here who are standing in solidarity with them, to make them feel more welcome in their community, and to recognize that their struggle is not theirs alone. It's meant a lot to them to see the community come out in support of them. They want to keep coming out every Saturday because they want to raise awareness for the plight of their family back home and what they have had to deal with growing up in Palestine, in Gaza, and what's going on in the West Bank as well, because it's not just limited to Gaza, but it's both Palestinian territories that are being under assault and under occupation. Salem's brother actually was killed 2 weeks ago in Gaza. Their families are living in Gaza still, and they're trying to get them out. The Canadian government has been very slow to provide any measures or any support to provide emergency visas for Palestinians living in Gaza right now. Even though they have now brought some measures, it's impossible for people to actually get out of Gaza. And they're also not providing any financial support to bring people over the way they have for other conflicts and for other refugees.
Cahill expects the rallies to continue every Saturday for the foreseeable future.
We're going to keep these going until the war ends, at which point we'll take a break maybe, but the occupation continues, so we might continue doing them after that as well. But the most important thing right now is for a ceasefire to be brokered. This is a conflict I've followed for close to 20 years, and understanding that the Palestinian people have been under occupation for 75 years is something that a lot of people don't realize. And this most recent assault on Gaza is now entered the realm of genocide, and nobody is doing anything about it, and not many people are talking about it.
This is an example, Cahill said, of how even big world issues are felt locally.
These are issues that affect your neighbors. These are issues that affect us as residents, whether we have family there or not, because our government has ties with the state, the government that is perpetrating this genocide. We send military weapons to Israel. We send military technology to Israel. We have joint training exercises with Israeli military and police. And so these are supports that we give that we can stop. And our government, our country, can stop supporting and participating in the genocide that the state of Israel is committing.
I'm Jeff Gard.
Feel-good story to end the show. Lake Nanaimo resident Craig Evans has been awarded the Medal of Good Citizenship by the British Columbia government. Evans was a longtime farmer who played a pivotal role in helping residents find ways to access fresh fruits and vegetables. He also advocated for anyone to be able to learn to grow their own food. He passed in March 2023. Jen Cody, Evans's life partner, is proud to see Evans recognized for his hard work and countless years dedicated to farming and protecting nature. She hopes more people will now learn who Evans was and continue his missions for years to come. She speaks about Evans and the work he has done over the years with journalist Lauren McKenzie in Nanaimo, BC.
The late Craig Evans, known for his work in sustainability and food security in the Nanaimo community, is being honored with the Medal of Good Citizenship. This year, 21 people throughout the province are being honored with the medal, recognizing their generosity, service, and acts of selflessness in their communities. Evans was a longtime farmer who played pivotal roles in founding the Nanaimo Community Gardens and the Growing Opportunities Farm Community Corporation. Additionally, he took on various roles in establishing the Vancouver Island University's Farmers Market and supporting the downtown Nanaimo Farmers Market, allowing anyone in the city to access fresh fruits and vegetables. Evans has already been awarded the Patron of the City from the City of Nanaimo, honoring his outstanding service in the community for more than three decades. He received this award in January of 2023, before his passing in March of that year. Jen Cody met Evans at a food security conference in 1999. As Cody says, Evans saw her from across the crowded room and knew right away she was the one. They shared a love of alpine hikes, and a lot of her favorite memories were with him on the mountains. Cody says Evans was really passionate about recycling, having started what became the Nanaimo Recycling Exchange in the 80s. It expanded to places such as Victoria and the west of Kitchener, Ontario.
The recycling that he did was the largest recycling production in west of Kitchener, Ontario at that time. So really ahead of his time, and was responsible for recycling here in Nanaimo for quite a while, ran the recycling depot here, and was one of the folks who started the Nanaimo Recycling Exchange.
Evans also brought his passion for agriculture to the Vancouver Island University's Workplace Essentials Skills and Training Program, also known as the WEST Program. The program is for students with development and cognitive disabilities to help them develop the skills required to obtain and maintain employment, as well as to grow independence.
Craig was a bit of a magician that way. And so he always was really able to sort of pull in a lot of different threads in the community and then weave them together. And the West program was such a good example of that.
Evans, as a workplace trainer for the West program, was able to bring his extensive knowledge for agriculture into the program. And students could do some of their jobs and skills training in the field.
Craig was really passionate and wanted to grow people in the community, but also grow food in the community. And he was able to sort of bring those two pieces together. He was a real advocate for inclusion.
Cody says agriculture seemed to be a great fit for the program, allowing students to support themselves and the community.
The two ended up complementing each other and supporting both the students and also supported the development of community members in general and being able to connect with agriculture and learn some of those agriculture skills and build an inclusive community at the same time.
Regarding the award, Cody says she is proud to see Evan's work highlighted by the province for more people to learn about who he was.
Well, I think that Craig was one of the unsung heroes in the community and contributed a great deal to the community over the years.
She also says this award allows for Evan's missions and work to be heard by more people so they can continue what he first started.
I think it's just really important that that was really who Craig was. He had an honoring for all of the beings in the community. And when he thought of beings, he really thought of beings as being all the other plants and all the animals as well.
Cody hopes his message will still hold true and people will continue to make a priority of connecting with nature and understanding where their food comes from.
If you talk to people in the community about the impact that he had, so many people were changed by having interacted with him in a good way. And I think that he's just a real role model for people to continue to remember and hold in their hearts about how to walk a good life and to embrace every aspect of his life, including he was able to embrace and understand and process his own death and feel comfortable with that.
Cody says Evans moved people by the way he lived his life through his illness, by not letting it stop him and still finding the joy and happiness that was in it. I'm Laura McKenzie.
Concludes this edition of Viewpoints. Thanks to our journalists Ryan Hunt, Jeff Gard, Brenda Little, Dan Messick, Lauren McKenzie, and Haley DiRizio. To our national editors Maureen McEwen and Victoria Fenner. Viewpoints is produced by the Community Radio Fund of Canada with the indispensable help of your local community radio station. I'm Boris Chassaigne, your host and producer. Thanks for keeping us company this week, and until the next, ciao.
On January 25th at 8 p.m., the Cinematheque Quebecois presents Gashrat. Gashrat is Kelly, Tara, Chelsea, and Gabby. Gashrat sets the record straight. Gashrat remembers a lost Montreal. Gashrat is a convergence of spirits deserving each other. Gashrat is a rock band. Gashrat is back for one concert, for one night only. Get your tickets now at cinematheque.qc.ca. Co-presented by the Cinematheque Quebecois and CKUT.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, on retourne cette semaine explorer la communauté de l'île d'Anticosti, où une femme tente de faire renaître l'art perdu du tissage.
Ils tissent, ils font 5 linges de vaisselle, mettons, là. Mais ils ont une semaine. Ils en font 5, un pour la boutique, puis 4 pour eux autres. Je leur charge 5 $ du linge de vaisselle pour payer le fil. Ouais.
Une nouvelle ligue de hockey féminine entre dans l'histoire. Des matchs se tiennent à guichets fermés.
C'est tellement dur à décrire le sentiment quand j'ai embarqué sur la patinoire avec toutes les lumières éteintes, avec les lumières bleues. On sentait comme un concert de Coldplay. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire que je vais toujours me rappeler. Puis je suis contente que j'avais de la famille ici aussi, que c'est pour eux autres aussi qui ont suivi ma carrière. Je suis très fière pour la génération future, mais aussi de reconnaître les générations avant moi. C'est pour eux autres aussi.
Et l'avocat régent au coin est nommé sénateur à Ottawa. Pour lui, le Sénat façonne à sa manière le Canada. Nous l'aurons avec nous.
Depuis la réforme du Sénat, premièrement, la réputation du Sénat est beaucoup mieux qu'elle était, parce que je pense que les Canadiens réalisent qu'on fait vraiment notre travail, notre job. Je réalise maintenant que je suis la voix des Acadiens de la Nouvelle-Écosse qu'on n'a pas eu depuis 10 ans au Sénat.
Ceci et un peu plus pour cette première édition de l'année de Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X @CanadaLJI.
Merci encore d'être avec nous pour lancer l'année et ce nouvel épisode de Point de vue. Nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur pour 2024. La santé, bien évidemment, au premier chef et le bonheur tout en seconde position. Et pour se déposer ici en douceur, on prendra notre temps avec vous cette semaine en vous présentant 3 reportages seulement et vous parler d'artisanat, de politique et de hockey féminin. Et pour lancer les festivités de la nouvelle année, on traverse cette semaine encore le fleuve Saint-Laurent, accosté sur l'île d'Anticosti, où nous attend notre journaliste Raphaël Hensley-Vincent, qui a profité de son séjour à terre pour nous faire découvrir la communauté de cet endroit retiré de tout. Raphaël, qui sait ce que ça veut dire être retiré de tout, elle qui vit normalement à des centaines de kilomètres de là, dans le village d'une centaine d'habitants de Tête-à-la-Baleine, en Basse-Côte-Nord. Mais là, elle est à Port-Meunier pour y rencontrer Anne-Marie Dresdel, qui, il y a quelques années, a dépoussiéré les métiers à tisser du curé et ravivé une pratique tombée en quasi-désuétude. Depuis quelques années, elle offre aux insulaires de s'initier à cet art séculaire à l'atelier boutique L'Insular, situé au centre du village de Port-Meunier. À 79 ans, elle tient aussi le café Ilda D'A, un lieu de rassemblement et de rencontre pour la petite communauté du village. Anne-Marie Dresdel est née à Anticosti. Elle y a vécu la majeure partie de sa vie. On la rencontre ici au café qu'elle tient, le café Ilda. Entretien donc à bâton rompu avec une femme dévouée et énergique, en compagnie de notre journaliste Raphaël Hensley-Vincent.
Ça, c'est des linges vaisselle, puis ça, on en vend. Ça, c'est fait ici, on des couvertes. C'est comme celle-là que tu as dans la porte, là, c'est fait ici aussi. La madame, ça, qui a fait des jetés, là. Elle va faire des jetés, là.
Il y a quelques années, Anne-Marie Dresdel a ouvert un atelier de tissage au centre-ville du village de Port-Meunier, Anticosti. La boutique, l'insulaire et l'atelier sont des organisations à but non lucratif. L'artisanat créé, les linges à vaisselle et les jetés de laine sont vendus aux touristes. C'est ce qui paye notre loyer, indique Anne-Marie entre deux rangs, les yeux attentifs à son ouvrage. L'autre partie est offerte par la municipalité. Dans la pièce attenante, elle tient aussi un café communautaire, le café Ilda, et une friperie depuis l'an passé.
Ça, moi, j'ai parti ça parce que moi, j'étais cuisinière, je ne voulais plus faire de bouffe. Là, j'ai des gîtes, je ne voulais plus faire de bouffe. Là, j'ai dit, moi, je fais plus de bouffe. Là, j'aime bricoler, faire des choses. Ben, j'ai parti ça tranquillement, là, puis là, j'avais juste cet appartement ici. Je louais ça de monsieur. Après ça, ben là, il y en a qui m'ont emmené des métiers. Ma mère en avait un, mais j'avais jamais tissé.
Ah oh non, OK. Je pensais que vous aviez tissé peut-être toute votre vie, mais...
Non. Puis là, j'ai fait rentrer ma belle-sœur, qui était présidente des fermières, qui tissait. Elle est venue nous donner des cours. Fait que là, j'avais un métier. On l'avait ici. Quand le curé est décédé, il m'a emmené des métiers. Fait que là, j'ai loué l'autre côté.
Vous n'avez plus de place pour mettre... Parce que c'est quand même gros, un métier,
ben oui,
c'est
ça. Puis là, il y en a un gros. Il y avait un gros, puis je voulais que ça aille plus.
Si les métiers à tisser de l'atelier sont aujourd'hui maniés par plusieurs personnes au village, il y a quelques années, plus personne ne tissait à l'île d'Anticosti. Anne-Marie Dresdel n'avait jamais tissé de sa vie non plus. Elle a pourtant ravivé cette pratique sur l'île et c'est sa belle-sœur Cosette, du Cercle des fermières de Havre-Saint-Pierre, qui lui a appris la pratique. Depuis, elle transmet à son tour ce savoir aux résidents et aux résidentes intéressés.
Les gens viennent tisser. Quand ils savent tisser, je leur donne une clé, ils peuvent venir. Puis, ils tissent, ils font 5 linges de vaisselle, mettons, là. Mais ils ont une semaine. Ils en font 5, un pour la boutique, puis 4 pour eux autres. Je leur charge 5 $ du linge de vaisselle pour payer le fil, parce qu'on fournit tout, là.
L'atelier connaît un réel engouement. Les générations s'y côtoient.
Même de tricot, de peinture. On fait toutes sortes de choses. Si les gens m'arrivent, ils disent « Oh, ce sera le fun, on fera... » D'avoir un cours de tout ça, ben, je me l'organise, là. Je mets de l'hiver même, on a une table avec des casse-têtes dessus. Ceux qui font pas de métier, qui vont venir jaser, prendre un café. Là. Ils font du casse-tête, ça jase. C'est vraiment la place de rencontre.
Il y a des hommes qui viennent aussi des fois? Ou...
Là, il y en a qui veulent venir cet hiver. Là ils travaillent, mais ils m'ont dit qu'il y avait des hommes. Parce qu'il y en a un, Renaud, il avait pris un professeur d'école. Il a pris le cours. Ouais. Premier cours qu'on a donné, là, il l'a pris. Ouais. Je vais finir ce bâton-là, là. Je vais te l'enlever. Bon, bien sûr. Il y a celui, là, je peux te le faire.
Ah, j'aimerais ça, Fanny.
Oui, ça fait ça. Ah, si tu commences
quand
ça.
Quand on commence, là. Moi, quand j'ai commencé, je disais que je suis jamais capable. Que ça allait compliquer,
je
suis jamais capable, puis
je suis rendu. Là, c'est les pédales, là. Ici, t'as gâte, c'est 1-4. C'est comme ça. Tu vas l'avoir. C'est pas compliqué, un coup qui est monté. Il faut que tu claques assez fort.
Il
faut qu'il tisse, là.
Non, merci pour l'essai.
Tu peux continuer.
Je passe mon entrevue avec vous aussi. Vous me faites visiter. Mais...
Anne-Marie Dresdel est née à Anticosti, au temps de l'âge d'or de l'exploitation forestière sur l'île. Lorsque la papetière Consolidated Bathurst annonce la vente de l'île au gouvernement du Québec au début des années 70, elle déménage avec son mari au Saguenay. Ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'elle est revenue s'installer sur son île natale.
Qu'est-ce qui vous a fait revenir?
Ah, moi, c'est parce que j'aimais ça, puis je suis native d'ici, puis je voulais revenir aussi. J'ai revenu, mais quand mon mari est décédé, je suis revenue faire la cuisine à ses parents. Je travaillais comme cuisinière.
Puis ensuite, le café, ça, c'est vraiment récent.
Ah, ça, c'est du mois de juin. Ouais. Ça, j'ai parti ça le début de juin. Tranquillement, là, j'ai parti un petit café ici, là, mon linge, je vais ça, donc là, je suis avec ça. Ça, c'est plutôt un café rencontre. Là, je viens vers 5h30, 6h le matin, je commence les cafés, les déjeuners à 7h. Là, ça va à pas, ça arrête, ça vient chaser, c'est du sucre à crème, de toute affaire du café. J'ai des livres qui peuvent emprunter. Il y a beaucoup de choses, là. C'est communautaire. Là,
vous avez parti un café à presque 80 ans. Où est-ce que vous tirez votre motivation puis votre énergie?
Ben, c'est parce que j'aime ça. Je suis toute seule. Mm-hmm. Je suis toute seule dans la vie, fait que là, je suis seule dans la maison, fait que je m'en viens ici, on raconte du monde, là, moi, c'est surtout pour rassembler après COVID, là. C'est que ça fait du bien. Parce qu'il y a un petit village, là, tu voyais pas grand monde, là. Quand ils ont annoncé l'UNESCO, c'était ici, aussi, parce qu'il y avait une TV, on avait installé ça. Puis tout le monde était rassemblé ici, la municipalité, tout le monde, pour entendre la nouvelle, si ça allait être accepté, puis tout ça, là. Ça a été en direct ici. L'été passé, on faisait il y en avait des musiciens, ils faisaient de la musique. On fait des soirées ici, là, tu sais, avec quand il vient des musiciens. Puis ça roule.
Le monde revient, dit-elle en parlant de Port-Meunier. L'école primaire, qui a déjà accueilli moins de 10 élèves, en accueille cette année 30. Le café est indéniablement un lieu qui rassemble la communauté, tout comme la pratique du tissage à l'atelier.
Tant que je vais être capable. je vais le faire après ça. Parce que, tu sais, tout ça, la maison percée, là, je vais avoir mal partout quand je vais me lever. C'est là que je vais dégringoler, là. Fait que, tandis que comme ça, là, ça me garde en fond.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Le nouvel an est aussi l'occasion de se rappeler, nous, Canadiens, qu'on a la chance, si ce n'est pas à donner à tous, de vivre en démocratie et qui plus est, dans une démocratie relativement saine et quiète, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des institutions qui, dans ce contexte, font office de garde-fou et parmi elles, l'institution méconnue du Sénat canadien. L'un des anciens membres du conseil d'administration du Fonds canadien de la radio et le fonds qui produit d'ailleurs cette émission vient donc d'être nommé au Sénat. On tenait à vous le souligner par souci de transparence. Il s'appelle Régent Aucoin. Il est avocat de profession et originaire de Chiticamp, Nouvelle-Écosse. Monsieur Aucoin a toujours été un grand défenseur des droits linguistiques des Acadiens de la province. Nommé il y a près d'un mois en tant que sénateur indépendant au sein de la Chambre haute, le sénateur Aucoin se fait un devoir d'être aussi le porte-voix de la communauté acadienne à Ottawa. Le sénateur Aucoin précise que les 105 sénateurs du Parlement canadien façonnent à leur manière l'avenir du pays. Ils proposent et examinent des lois, enquêtent sur des questions d'importance nationale et représentent les intérêts régionaux et les groupes canadiens sous-représentés. Il est ici au micro de Daniel Aucoin, sans lien de parenté.
Sénateur Régent Aucoin, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Rebienvenue à Chiticamp.
Merci beaucoup.
Régent, on sait que tu as été nommé sénateur environ un mois et demi de ça. On sait que ça faisait une dizaine d'années que les Acadiens de la Nouvelle-Écosse n'étaient pas représentés au Sénat. Peux-tu d'abord nous rappeler le rôle fondamental du Sénat aujourd'hui?
Le rôle du Sénat, c'est de regarder de près la législation ou les lois que le Parlement du Canada, la Chambre des communes, va passer. Et nous, on a l'organe ou l'organisme de second regard qu'on regarde de nouveau les lois. Puis, il y a l'occasion de... On a des moyens, par exemple, il y a 17 différents comités. Mm-hmm. On peut faire venir des témoins, on peut enquêter sur le projet de loi même pour s'assurer que ça représente bien les régions et les minorités.
J'imagine que le travail de sénateur, c'est quand même assez varié.
Ben, c'est très varié dans le sens que chaque projet de loi qui vient, faut s'informer, faut l'étudier, faut voir, faut s'éduquer sur ce projet de loi-là. Puis il y a quand même des comités qu'on peut travailler dessus, comme je dis, et faut parler aux autres sénateurs pour voir un petit peu comment ça va se passer.
Jusqu'à date, c'est quoi l'engagement qui exige le plus de ton temps comme sénateur?
Jusqu'à date, c'est le temps en chambre, le temps qu'on siège, parce que c'était juste avant les fêtes où il y a plusieurs projets de loi qui devaient être passés ou que le gouvernement voulait passer. Puis ça exige des longues heures, mais apparemment que ça sera moins occupé de ce côté-là après Noël.
Est-ce que ta première entrée dans la chambre du Sénat, ça a été un peu intimidant?
Oui, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre comme nouveau sénateur, mais on a eu beaucoup, beaucoup d'encouragement et il y a beaucoup de sénateurs qui sont venus nous voir parce qu'on est 5 qui ont été nommés en même temps, pour nous féliciter et aussi nous encourager et dire que le fait qu'on ne comprenait pas tout ce qui se passait, c'était normal et ça viendrait avec le temps.
On sait que les sénateurs, tu l'as mentionné, travaillent souvent au sein de comités. Est-ce que toi, tu as eu cette expérience-là ou ça va venir avec la nouvelle année?
J'ai assisté à 2 comités, puis j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on peut entendre des témoins experts, soit par vidéoconférence ou soit en personne. Et je vais quand même faire le tour de la plupart des comités avant de décider lesquels que j'aimerais siéger dessus. Puis ça dépend aussi du nombre de places qui sont disponibles. Mais on m'a offert, par exemple, de siéger sur le comité des langues officielles, entre autres.
On entend souvent dire que le Sénat, c'est une institution qui est incomprise par la majorité des Canadiens. Est-ce que le Sénat peut toujours apporter des changements positifs en 2023?
Absolument. Parce que maintenant, depuis la réforme du Sénat, premièrement, la réputation du Sénat est beaucoup mieux qu'elle était.
parce que je pense que les Canadiens réalisent qu'on fait vraiment notre travail, notre job, dans le sens qu'on ressent, on regarde les projets de loi attentivement et on apporte des changements, comme un que j'ai travaillé dessus, que j'ai même parlé au niveau du Sénat, c'était sur l'éducation de la petite enfance. Il y a un groupe de sénateurs qui ont poussé pour avoir que les communautés francophones soient incluses dans l'article 8 qui parlait du financement. C'est retourner à la Chambre des communes, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer.
De plus en plus, on voit une augmentation importante au Sénat de la représentation des femmes, des autochtones, des groupes minoritaires. C'est quand même important, ça?
Oui, absolument. Je pense que maintenant, le Sénat est complètement reconstitué avec toutes sortes de gens, toutes sortes de groupes. Et les autochtones sont bien représentés. Les femmes sont peut-être pas 50%, mais pas mal proches. Puis, tu as des minorités d'un peu partout ailleurs, les minorités visibles d'un peu partout ailleurs au Canada.
Tu as mentionné que le 5 décembre, tu as eu la chance de parler sur le projet de loi portant sur l'apprentissage, la garde des jeunes enfants au Canada. Ça s'est bien passé?
Ça s'est très bien passé et je pense que ce que j'ai réussi à faire, c'est que ça a influencé plusieurs personnes à peut-être changer de vote. Mais ce qui s'est surtout passé, c'est qu'on était à peu près 6 ou 7 qui ont parlé de cet amendement-là et chacun s'est complété sans nécessairement savoir consulter, mais ça a fait en sorte que je pense que les autres sénateurs ont réalisé que pour nous, pour la communauté francophone et acadienne, c'est important. Cet amendement-là, c'était simplement qu'on s'assurait qu'il y aurait du financement pour les communautés francophones et acadiennes du Canada.
On sait que quelques semaines passées, il y a eu le décès de l'ancien sénateur acadien de la Nouvelle-Écosse, Gérald Comeau, de la Baie-Sainte-Marie. Tu as eu la chance de rencontrer Gérald Comeau à plusieurs reprises au cours des années?
Moi, je l'ai juste rencontré une fois quand j'étais au courrier de la Nouvelle-Écosse. Ça fait quand même une trentaine d'années, 35 ans au moins. Ça fait que j'ai peu de mémoire de Gérald Comeau. Je suis déçu que je rentre au Sénat puis lui décède. J'aurais pas la chance de lui parler, que j'aurais aimé ça d'aller le rencontrer pour voir comment est-ce qu'il avait trouvé son expérience et qu'est-ce qu'il avait fait ensuite.
On sait qu'il n'y avait pas eu de sénateur acadien dans la province ici depuis 10 ans. Tu représentes entre autres les Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Est-ce que tu as eu la chance de discuter depuis 2 mois déjà avec des représentants de la communauté acadienne en Nouvelle-Écosse sur des dossiers qui les préoccupent?
Un peu, mais pas beaucoup, peut-être 2 ou 3 personnes, parce que vraiment, les derniers mois et demi, ça a été de m'occuper de faire mon travail au Sénat. Il y a quand même quelques personnes, dont Jules Chiasson, le directeur de la FAN, s'est rendu à Ottawa, ça fait que j'ai eu la chance de discuter avec lui un petit peu. J'ai discuté aussi de la petite enfance. Mais ça va venir que je vais pouvoir rencontrer ou discuter avec les représentants de la communauté. Puis c'est important que la communauté se gêne pas de me contacter s'il y a quelque chose que je peux faire. C'est quand même assez limité, mais je pense que je réalise maintenant que je suis la voix des Acadiens de la Nouvelle-Écosse qu'on n'a pas eu depuis 10 ans au Sénat.
Les gens intéressés, je pense, peuvent suivre tes démarches en ligne sur une page au Sénat, je pense?
Absolument. Le Sénat, c'est comme l'Assemblée législative ou l'Assemblée, la Chambre des communes, c'est tout est public. On peut, je pense que ça s'appelle Senate View. Mm-hmm. Tu peux aller là, tu peux cliquer, tu peux regarder en direct ou en différé tous les débats du Sénat ainsi que les comités.
Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui comme sénateur?
Ben essentiellement que moi, ça a été une grosse surprise pour moi dans un sens que je m'attendais pas vraiment à ça, malgré que c'est moi qui y avais appliqué il y a quelques années, mais que ça m'a fait chaud au cœur d'avoir toutes les félicitations que j'ai reçues quand j'ai été nommé, puis que je vais faire mon possible pour vous représenter au Sénat du mieux de mes capacités.
Alors, sénateur Régent Aucoin, qui est dans nos studios, et tu es dans la région, je pense, pour une bonne période de temps déjà?
Oui, pour jusqu'à la fin janvier. Ça fait que s'il y a des gens qui veulent me contacter, j'en ai vous pas.
Alors, merci beaucoup.
Merci, Daniel.
Il faut souligner que la question de l'abolition du Sénat canadien revient de façon cyclique dans l'actualité. En 2015, le gouvernement de Stephen Harper avait renoncé à réformer le Sénat au moment où l'ancien chef du nouveau Parti démocratique, Thomas Mulcair, tenait à l'abolir, allant jusqu'à dire « Nous, on est résolus à se débarrasser de cette institution vétuste et antidémocratique. » La question divisait alors, d'ailleurs, les premiers ministres des province.
Suivez-nous sur x@canadalji. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bon, on croit que le temps est venu de renouveler l'invitation qu'on vous a récemment lancée en 2023, de venir découvrir le nouveau site web de fréquenceinfo.ca. Vous retrouverez là des centaines de reportages réalisés par nos jeunes et encore plus jeunes journalistes de l'initiative de journalisme local, eux qui travaillent pour nous et surtout pour leur radio locale et communautaire d'est en ouest au pays. Fréquence Info qui est en fait le fruit de la refonte de canada-info.ca. Jetez-y donc un coup d'œil et vous aurez l'occasion de voyager en quelque sorte à travers le pays, de le redécouvrir via l'info locale et d'y entendre surtout des éléments que nous n'avons pas le temps de vous faire tous écouter ici, tels que l'un des deux reportages produits par notre collègue Marine Togali à Toronto, qui s'est rendue au premier match de la Ligue professionnelle de hockey féminin qui opposait le 1er janvier dernier les équipes féminines de Toronto et de New York. Toronto, bon, a perdu par la marque de 4-0, mais aura l'occasion de se reprendre. Marine, qui en a profité pour couvrir évidemment ce match et rencontrer quelques-unes des joueuses qui ont fait l'histoire, mais aussi, comme ici, pour parler avec des entraîneuses, des joueuses et des amatrices de hockey féminin.
Après 4 ans de mise en place, le match d'ouverture de la première ligue professionnelle de hockey féminin, la LPFH, ou PWHL en anglais, s'est joué le 1er janvier 2024 à Toronto. Un moment historique pour le sport et pour la place des femmes dans ce milieu. 157 joueuses de 12 pays différents constituent les 6 équipes de la ligue à Montréal, Ottawa, Toronto, New York, Boston et Minnesota. Karel Emar est agente de joueuse pour Cortez Management, mais surtout ancienne joueuse de hockey.
L'année dernière, j'étais encore joueuse pour la PWHPA. J'ai eu une opportunité en parlant avec un ami à moi qui gérait justement la boutique ou l'agence là-bas, à Montréal. Il voulait essayer de donner des plus belles opportunités aux femmes, les protéger aussi, puis qu'on les représente de la vraie façon comme les garçons sont faits. Puis la façon qu'il m'a approchée, il m'a envoyé cette idée-là, on a commencé à parler. Puis j'ai dit, bien, si tu le fais, il faudrait que tu le fasses d'une façon que tu n'es pas le gars qui vient du côté des hommes puis qui s'en va vers les femmes parce que maintenant, il y a de l'argent à faire avec eux. Il faut que tu le prennes comme un investissement. Il faut que tu protèges les filles puis tu leur permettes d'avoir des vraies opportunités. Puis il a dit, OK, parfait, on va le faire comme ça, mais je ne me vois pas partir cette agence-là sans toi. Fait que je suis devenue directrice de la division féminine pour Quartex. On représente 11 joueuses maintenant qui sont joueuses parmi les 6 équipes ici dans la Ligue. Puis on a d'autres joueuses qui s'en viennent dans la NCAA qui évoluent dans des rangs plus jeunes, dans le fond, qui vont venir dans les années qui suivent. Mais oui, c'est un bon début, puis on est très fiers de ça là, pour l'instant.
Donc, l'amour du jeu t'a fait mettre de côté le sport. Est-ce que tu es fière? Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, on a contribué à quelque chose, à une avancée?
Ben oui. Écoute, on a travaillé, on s'en parlait, Liz et moi, Nox. Dans le fond, il y a 4 ans, quand on s'est appelé, puis on a dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, que notre ligue elle a cessé les fonctions. Puis on a réussi à réunir le groupe. Puis maintenant, aujourd'hui, de où on était à où ce qu'on est maintenant, c'est un moment historique. On était émotionnels dans les estrades. Les petites larmes sont venues ici et là, le speech. C'est sûr que quand tu regardes ça, tu sais, tu t'ennuies du sport. Mais en tant que tel, je me dis que je suis capable d'aider d'une autre façon maintenant. À place d'être sur la glace, à aider les joueuses à rester unies, mais maintenant, c'est mon but de les garder dans des positions où ils sont safe, ils sont sécuritaires. Ils ont toutes les informations qu'ils ont besoin avant de prendre les décisions qu'ils peuvent prendre, signer des contrats quelconques. Fait que c'est plus un côté éducation, un côté protection que je le voyais. Puis je le vois vraiment comme une division qu'on a créée qui est pour les joueuses, par les joueuses. Donc, un gros focus sur qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, moi, en tant que joueuse. A été comme un peu la vision de cette vision-là. Donc, très fière de ça. Puis je vais continuer aussi à aider ici et là avec l'association des joueuses, là, comme je le peux, ou le groupe des anciennes joueuses aussi. On aimerait les inclure à travers tout ça. Ouais. C'était le fun de voir une sable comble aussi pour la première partie là, inaugurale. C'était champion. Champion de la part de Toronto. Ils ont bien fait ça. Merci à toi.
Les joueuses savent que l'histoire ne fait que commencer à s'écrire, comme pour Lauriane Rougeau, défenseuse pour l'équipe de Toronto, qui parle avec émotion.
C'est tellement dur à décrire le sentiment quand j'ai embarqué sur la patinoire avec toutes les lumières éteintes, avec les lumières bleues. On sentait comme un concert de Coldplay, mais c'était quelque chose d'extraordinaire que je vais toujours me rappeler. Puis je suis contente que j'avais de la famille ici aussi, que c'est pour eux autres aussi qui ont suivi ma carrière. Puis pour moi, c'est juste j'appelle ça comme pas un dernier tour de piste, mais vraiment, tombe de ma carrière, puis dire que j'ai continué à jouer, puis j'ai continué à travailler fort pour ce moment-là, puis je suis très fière pour la génération future, mais aussi de reconnaître les générations avant moi, toutes les joueuses, les Canadiennes, les Stars, l'Action avec qui j'ai joué, c'est pour eux autres aussi.
Avec deux titres olympiques, une médaille d'or aux JO de Sochi en 2014 et une médaille d'argent aux JO en 2018, Lauriane Rougeau est pleine d'espoir pour la saison.
C'est sûr que c'est une grosse collaboration avec toutes les joueuses qui sont dans la Ligue cette année. C'est 4 ans in the making. Ça fait 4 ans qu'on travaille très fort pour ce moment-là. Puis je suis tellement fière du spectacle qu'on a pu offrir aux partisans. Puis je sais que ça va être comme ça toute l'année puis aux années à suivre. Puis on remercie beaucoup les efforts de Billie Jean King puis de Walter Group. On leur remercie pour nous donner l'échelle pour qu'on puisse continuer. Puis je pense que ça va être du très bon hockey. Puis j'espère que les partisans vont continuer à nous supporter comme ça.
Un mot pour vos soutiens, vos supporters et toutes les fans qui vont vous suivre, vous et l'équipe de Toronto. C'est quoi l'année à venir?
Oui, alors je pense que vous allez voir, comme ce soir, on est une équipe assez rapide. On va jouer physique. Je pense que ça va être des très bons matchs. Alors, je pense que, puis en plus, on a les billets sold out à chaque game. Alors je pense que ça va être un très bon atmosphère. Puis on est reconnaissante. Puis on a très hâte de leur montrer c'est quoi l'équipe de Toronto.
À l'ouverture des ventes de billets de la LPHF, les places sont parties en quelques minutes et les passes pour la saison sont déjà tous vendues. Le 1er janvier, pour le tout premier match de l'histoire, Toronto a joué à domicile contre New York. Dans le public, des familles, mais surtout des supporters de toujours, joueuses de hockey de tous les âges, comme Heather, 55 ans, et Olivia, 16 ans.
Oh, j'étais, je pense, la première personne. J'étais en ligne avec mon doigt sur le bouton. Le premier moment qu'on pouvait les acheter. Parce que ça fait longtemps que j'attends cette expérience de voir les joueurs dans un environnement professionnel, top-notch. Je suis tellement excitée.
Vous avez pris un billet pour un match ou toute la saison?
Toute la saison, sans doute.
Donc, supportrice de Toronto?
Ah oui. Ben, je viens de Montréal, alors j'ai un peu... J'aime beaucoup l'équipe en Montréal, mais j'habite à Toronto, ça fait 25 ans, alors oui.
Et vous êtes venue avec qui?
Mes amis. Je joue au hockey avec mes amis, alors on est tous ici, on est six dans un groupe.
Je suis ici avec mon père, ma mère et mon frère.
Et le maillot que tu portes?
L'une du Brampton Canadiens.
C'est quoi?
Une association de hockey avec des femmes.
Est-ce que tu joues au hockey?
Oui, je joue pour le U18 âge et level A.
Level A, ok. Mm. Qu'est-ce que tu viens faire aujourd'hui ici?
Je regarde le jeu du PWHL, le premier jeu du saison. Je vois le Toronto contre le New York. Maintenant, je suis excitée, un peu nerveuse. Je pense que ça va être une expérience très grande. Et... Ouais. Je pense que c'est très excitant parce que, tu sais, comme on jamais avait une équipe d'hockey ou une association professionnelle des femmes. Alors, c'est quelque chose de très excitant maintenant.
Billie Jean King, une des plus grandes joueuses mondiales de tennis et militante pour la place des femmes et des personnes LGBTQ de plus dans le sport, avait inauguré le premier match en compagnie de Jenna Hayford en déposant un palet sur la glace avant le premier match de l'histoire.
Parler et user.